France Inter.
Tout ce qui vous est servi vient de l'océan. Ici, il n'y a rien qui vienne de la terre.
C'est remarquable. On croirait du veau.
La saveur en est trompeuse. C'est du serpent de mer à la grecque.
CO2, mon amour.
Ça, ce n'est pas de l'agneau, je suppose.
C'est de la poitrine de marsouin, farcie de bernique et cuite dans les algues.
C'est merveilleux.
Mon chef excelle à préparer ces produits variés. Passez-moi un peu de lait.
Denis Chessou.
Ce lait, messieurs, est fourni par la mamelle des baleines polaires.
Sur France Inter.
Il n'y a rien de mangeable ici.
Je ne suis pas sûr qu'on goûte, mais quand même, c'était Jules Verne, c'était 20 milieux sous les mers. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Pauline Laverdure à la technique. Notre collaboratrice est Camille Blanès et c'est Andrea Lechêne qui réalise l'émission. Qui commence par une petite humeur. Eh, dites, l'écologie, je la mets où, là? Sur le trottoir, là, je peux? Bah ouais, vous en faites pas, j'appelle les encombrants. Et le mot sobriété? Ah bah dans la poubelle jaune! Avis de recherche, wanted, où est passée l'écologie? Vous voulez éviter d'agir? Ah bah c'est simple, vous disqualifiez les écologistes et puis vous attaquez l'ADEME, l'OFB, l'ANSES, donc la sécurité sanitaire, l'INRAE, vous éco-terrorisez les associations, vous gagnez du temps pour dérouler votre A69, et puis la vie est belle, et c'est comme ça! Et bonjour la nature dans les champs! Eh, tu parles de quoi? Dit l'oiseau. Bah ouais, tu parles de quoi, renchérit la haie? Ah, parce qu'ils pensent qu'on va exister longtemps, dit la zone humide. T'as vu la loi de désorientation agricole? C'est open bar pour flinguer le vivant, on va t'expliquer. Économie de guerre et flingage de l'écologie à tous les étages. Quand les balles sifflent et que l'air ambiant est chargé de plomb, et même de sénateurs du plomb, on sera moins regardant sur la qualité de la nourriture. Drones et missiles se sont imposés sur les devants de l'actualité. L'heure est donc à la productivité industrielle de fusées d'ogive, de céréales calibrées, de tranches de porc ou d'ailerons de poulet. En arrière toutes, les marges sont faibles, donc agrandissez-vous et produisez. Les jeunes agriculteurs bio, tournés vers un passé plein d'avenir, n'auront droit qu'au sobriquet de rêveurs utopistes. Joyeux inconscients des réalités de ce monde, ils n'accéderont exceptionnellement au grade supérieur d'exploitants agricoles qu'au prix de concessions morales impitoyables aux lois intransigeantes du marché qui rend quand même malade ces agriculteurs. Eh ben oui, la mutuelle sociale agricole voit croître régulièrement ces dossiers de maladies liées à la chimie. Alors, les lobbies de l'état-major sont passés aux choses sérieuses. Les haies giboyeuses gênent le passage des chars. Oh, pas d'inquiétude, on va continuer à embroyer 20 000 km par an et vous laisser en planter 4 000. Eh ouais, il est pas beau l'état schizophrène? Le ciel est radieux, guerre chimique. Tu détruis une espèce, ce sera jamais intentionnel, bien sûr. Tu ne risques plus grand-chose. Et nos dégâts, là, sur les eaux et le reste? Eh ben, c'est la société qui paiera. L'eau des bassines sera pour le maïs exporté, le ski ou les pompiers. Et nique les castors et les rivières. Et pour l'installation des jeunes? Oh, ben, ça, on verra plus tard. Et le prix du foncier, on n'y touche pas. Les plus riches ne s'en plaignent pas. Et pourtant, 50% de ceux qui veulent s'installer veulent le faire en bio. Oh, ceux-là, ils sont pas de chez nous, tu vois. Et dans cette loi, bah, y a rien sur le foncier, sur l'entreprise agricole, sur les revenus et sur la transition climatique. Garde à vous, tout le monde. Le gouvernement de la République a fait ce qu'on lui a demandé et collez-moi la biodiversité dos au mur. D'autres résistent, veulent nourrir sans empoisonner, sans réchauffer, sans polluer l'eau. Alors courage et achetons leurs produits, ce sera meilleur en plus pour votre santé. C'était donc un jour à la campagne, en France, en 2025, un très joli recul pour les années qui viennent. Le ministère de la Transition écologique raboté fera ce qu'il peut pour réparer. Et dites-moi là, quelles sont les professions d'avenir là pour nos jeunes? Oh bah ça va être simple, hein, c'est oncologue, allergologue, pneumologue et psychiatre. Eh oui, il faut aussi beaucoup de psychiatres. Et puisque vous êtes près de la poubelle jaune là, glissez-moi aussi l'agroécologie dedans. Ça ne sert plus à grand-chose ces machins-là. Voilà, et puis aussi donc courage aux veaux, vaches, cochons couvés hein, qui prennent 2 semaines de vacances parisiennes à la porte de Versailles. Notre homme défend le vivant, la nature, les oiseaux. Nous partons en Charente-Maritime, on va se faire du bien. Mais oui, il y a de l'air, il y a des embruns, il y a tout. Et il y a surtout Alain Bougrain-Dubourg.
À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi quoi tu penses, à quoi tu penses. Est-ce qu'un jour c'est fini, fini la comédie, chanter après minuit, place de la mairie. Les premières rumba la nuit, un dernier tango à Paris. Est-ce qu'un jour c'est fini, fini. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment. À quoi tu penses, à quoi tu penses. À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment. À quoi tu penses, à quoi tu penses. Sept ans de réflexion, une robe qui vole. Sept ans de passion, on pleure, on rigole. Sur le piano du salon, chercher des paroles. Faire des chansons, console. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment. À quoi tu penses, à quoi tu penses. À quoi tu penses, à quoi tu penses en ce moment. À quoi tu penses, à quoi tu penses.
Bah c'était très agréable ça, c'était Ours sur France Inter, donc à quoi tu penses. Et bah nous on pense à quoi. À la nature dans cette émission avec Alain Bougrain-Dubourg, ou cela sur l'île de Ré.
Là, elle est très calme, très charmante. Il y a des moments où elle n'est pas contente. Et elle est même déchaînée. Mais je dis, même déchaînée, la mer reste attachante. Et c'est vrai que j'y suis très attaché parce que j'ai tellement marché sur cette plage. Et voyez-vous, Denis, vous regardez là-bas, c'est l'horizon. Et pour un gamin, il y a la curiosité, qu'est-ce qui se passe derrière l'horizon. Et moi j'avais la certitude, je le voyais par les images, qu'il y avait dans le nord les ours polaires, dans l'est vers l'Amazonie des anacondas, plus au sud il y avait les manchots, et puis il y avait probablement des koalas en Australie. Je voulais rencontrer tout ce petit monde. Donc je voulais dépasser l'horizon
que vous aviez derrière, cette barre qui est là.
Et donc je suis toujours très ému. Et il y a quelque chose de formidable ici, c'est que la mer est vivante.
Allongée à fleur d'eau sur 30 km, l'île de Ré, l'insula Ratis, dit-on, donc l'île aux fougères, quatrième île de France, derrière la Corse, les Rombes et l'île. En hiver, c'est peut-être pas chaud, mais en tout cas, c'est un cadeau. Alors s'il n'est pas né sur cette île de Charente-Maritime, c'est bien à Ré que le goût de la nature, la passion des animaux et du vivant est né chez Alain Bougrain-Dubourg. Alors la plage gronde derrière la maison familiale, la maison de ses vacances. Et de ses 7 années de pensionnat sans fin à La Rochelle, Alain donc retiendra le goût de la liberté en regardant le ciel et la mer. Et puis il créera aussi surtout le club des jeunes amis des animaux avec un goût donc pour les reptiles, etc., les rapaces. Et ça a donné après, ça a donné Animalia, ça a donné Terre des Bêtes qui nous a fait rêver, et ça nous a donné quand même un très courageux président de la Ligue pour la protection des oiseaux et qui continue. Et puis tenez, deux ouvrages, le Dictionnaire amoureux des oiseaux et le Dictionnaire amoureux de la faune sauvage. Ce sont deux petites merveilles éditées chez Plon, vraiment à déguster. Fort Boyard était au loin, je vais pas interviewer le père Foura, non, j'ai préféré interviewer sur la plage de Montamer à Sainte-Marie de Ré, à la Mougrain-Dubourg.
La mer apporte son lot de vivants ou de morts, mais de biodiversité, en fait, un mot qu'on n'utilisait pas encore. Et par exemple, vous trouvez des gorgones ici, surtout l'hiver, quand ça brasse un peu. Elles sont des sortes de petits arbres de vie, ouais, en forme de récif, de corail, on va dire. Et moi, ça m'évoque l'estran avec tout son potentiel extraordinaire. Tiens, on va avancer. Je suis sûr qu'on va tout particulier. Ouais,
alors d'ailleurs, ce qui est intéressant quand vous parlez de galets, c'est que les galets, en fait, racontent aussi des histoires ici.
Tiens, voilà. Qu'est-ce que c'est, là, ce galet, là ? Arrondi, comme ça, on sent qu'il a été roulé par la mer. Il n'est pas comme les autres. Il est de couleur ocre. Eh bien, figurez-vous qu'il vient du Canada. C'est ce qu'on appelle la pierre de l'Est, non pas de l'Est géographique,
pour lester,
mais
les bateaux.
Lester les bateaux. Ouais. Et les bateaux recrachaient ces pierres quand ils allaient prendre des cargaisons.
Je crois qu'il vient de Terre-Neuve, carrément.
Voilà. Il vient peut-être du Saint-Laurent, de je ne sais où. Mais je trouve ça extrêmement émouvant. Ah. La mer nous raconte énormément de choses. Ah, là, là, là. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore ? En ce moment, on a pas mal d'œufs de raies. Vous savez, les raies... elles vont pondre des œufs en forme de carré et ces œufs sont recrachés sur le littoral. Les jeunes sont nés déjà, mais il y a la trace de cette vie qui s'est épanouie. Je suis sûr qu'on va pouvoir en
et puis là, on a quand même toujours ce mot délicieux, les laisses de mer.
Les laisses de mer.
C'est que laisse la mer.
Voilà. Et c'est le lien, la charnière entre la mer et la dune. Et c'est indispensable. Là, vous avez dans la laisse de mer beaucoup de petits bécassos, des tournepierres qui viennent se nourrir, trouver des micro-organismes, des petits vers. Voilà, c'est un lieu très intime du vivant, la laisse de mer. Et autrefois, maintenant on commence à comprendre, on trouvait que c'était pas propre. Ça ne faisait pas net.
Ça, c'est ça.
Aujourd'hui, on est très respectueux et on laisse les laisses de mer. Voilà.
Oh, un œuf de raie.
Voilà.
Petite poche.
Et là, elle est sortie, la raie. Alors ça, c'est un témoignage de vie. Ils vont accrocher ça au rocher. Alors, ils créent une véritable nurserie parce que chaque raie peut pondre une cinquantaine d'œufs, comme ça, et elles vont toutes au même endroit. Voilà un autre. Et donc, ça fait une nurserie. Il y a les jeunes raies qui vont naître, oui, et puis les œufs qui se détachent et qui atterrissent plus tard sur la plage.
Il y aurait presque Lucane cerf-volant, vous voyez.
Oui, c'est... tout à fait.
Alors pour le climat, je ne peux pas dire que c'est plus simple, mais on a une unité de mesure qui est le CO2, alors que pour notre nature, notre biodiversité, c'est par millions que ça se passe. Oui.
Non, puis surtout le climat, on voit les effets délétères sur les activités humaines, sur l'économie, etc. Les sécheresses, les inondations et tout cela. On n'a pas la même conscience à l'égard de la biodiversité quand une espèce disparaît. Au fond, on se dit... D'abord, le plus souvent, on ne savait même pas qu'elle existait. Et enfin, on se dit, mais est-ce qu'on peut vivre sans l'outarde canepetière, le vison d'Europe ou la tortue d'Hermann ? Et la réponse est oui, oh, on va vivre sans eux. Mais jusqu'à quand on va déboulonner le vivant, c'est toute la question. Et un jour, on sera amené à vivre hors sol. Il y a une chose, moi, qui me frappe, qui est fondamentale. On est incontestablement les dominants de la planète, aujourd'hui. On est les maîtres du lieu. Et à ce titre, on a un devoir éthique à l'égard des plus faibles. Parce qu'ils sont les plus faibles, on a le devoir de les protéger. Non pas parce qu'ils nous sont utiles. Mais ça, on ne l'a pas encore enregistré.
Encore un peu de patience. Je vais être bientôt le maître du monde.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire entendre, on va dire, davantage ? Ok, prise de conscience, oui, c'est fait. Mais après, passage à l'action pour les uns et pour les autres.
Alors, il y a une chose très moderne, très nouvelle, c'est qu'en ce premier quart de 21e siècle, les scientifiques sont sortis de leur laboratoire. Ils étaient un peu comme la grande muette, l'armée. Ils n'avaient pas trop le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, non seulement ils font un état des lieux, et je pense au GIEC pour le climat ou l'IBES pour la biodiversité est à des lieux. Mais ce qu'il y a de fascinant et de moderne, c'est qu'ils font des recommandations à l'égard de ceux qui nous gouvernent. Ces derniers ne peuvent donc plus dire « on ne savait pas » et ne peuvent plus dire non plus « on ne savait pas comment agir ». Ils savent et ils savent comment agir. Donc qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Du courage et de la détermination. Un exemple simple. Vous avez encore plus d'une quinzaine d'espèces qui figurent sur la liste rouge de l'UICN et qui sont encore chassables. Mais est-ce que c'est acceptable ? Des espèces fragiles, chassables.
Comme le grand tétra. En fait.
Comme le grand tétra et comme tant d'autres. Il suffit d'un peu de courage, parce qu'évidemment, ça ne va pas plaire aux chasseurs, et détermination, parce qu'il est temps de faire respecter le droit. Eh bien, on ne progresse que grâce à deux choses aujourd'hui. Ce que nous dit la science et ce que nous dit le droit. Et après avoir tapé avec bonne volonté à toutes les portes, si ces dernières restent fermées, on se tourne vers les tribunaux administratifs, vers le Conseil d'État, voire vers la Commission européenne. Et on gagne le plus souvent. Alors évidemment, on nous traite de procéduriers, sauf qu'on gagne les procès. Donc ils méritaient d'être engagés. Et on constate malheureusement que le plus souvent, on ne progresse que grâce au droit. Moi, j'ai proposé à Agnès Pannier-Runacher 10 mesures, chic et pas chères, pour qu'elle devienne la ministre de la biodiversité la plus admirable. Tiens, retournez-vous.
Et donc, vous
voyez, elle a un exemple. Là, devant vous, je voudrais qu'on fasse une jachère de l'estran. C'est-à-dire que sur une longueur de 200 mètres, on laisse vivre la nature. On met des panneaux pour indiquer aux gens, ils ont le droit de se promener, d'aller voir, etc. On ne pêche pas. Et les gamins, périodiquement, vont faire des relevés de plancton pour voir si c'est plutôt bien quand on n'y touche pas. On va faire des quadrillages pour voir s'il y a plus de petits crabes, de trucs, de machin. Vous voyez là-bas les gamins ? Quand je vois des gamins, ça me fait penser à moi, à leur âge, là. Je courais dans ces petites mares, j'ai découvert les coquillages et ce potentiel de vie extraordinaire. Et ça a été une chance formidable de pouvoir vivre le rêve d'enfant en allant voir cette faune partout dans le monde, dans des conditions exceptionnelles. Parce que je rencontrais des scientifiques ou des gardes qui m'ont emmené, par exemple, à la rencontre des pygmées Baka, les gorilles du Rwanda, Diane Fossé, tant d'autres. Et ce qu'il y a de délicieux dans mon parcours, enfin ce que j'apprécie tant, c'est que non seulement j'ai vécu ces moments, mais surtout, je les ai partagés par la télévision. Vous savez bien ce que c'est, Denis, le partage. Quand on voit quelque chose de magnifique, de délicieux, comme ce spectacle, si on le garde pour soi, c'est quand même frustrant.
Ah, il manque un truc.
Il manque un truc. Ouais. Et puis, le partager, c'est vérifier qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a eu un partage avec les téléspectateurs.
Madame Brandubourg, tout à l'heure, lorsque je suis arrivé chez vous, j'ai demandé à la concierge à quel étage vous habitiez. Et elle m'a dit « Ah, l'homme au serpent, quatrième gauche ». Que pense la concierge de vos pensionnaires ?
Ben, j'ai de la chance parce qu'elle l'a très bien pris. Et la concierge a même accepté de venir faire le ménage. D'ailleurs, la première fois qu'elle est venue, j'avais un crocodile qui se promenait, il faisait chaud dans la pièce, il était bien. Et j'ai rien dit. Elle est venue, elle a donné un coup de balai, d'un seul coup, elle a vu le crocodile. Elle a dit « Tiens, un crocodile !» Et puis c'est tout. Ça prouve qu'elle n'est pas du tout troublée par les locataires.
Et vous continuez des dizaines d'années après, donc avec ces mêmes valeurs, vous savez que le vivant, on n'en parlait pas ainsi, on employait les mots de nature, de biodiversité. Bon, évidemment que c'est plus scientifique, ce qui cautionne, on va dire, cette notion de nature, mais le mot de nature, il a quand même une émotion que n'a pas le mot biodiversité. Oui. Mais pour vous, ça continue de la même manière, en fait, avec d'autres moyens, mais ça part de là, quoi.
Et moi, je suis guidé par deux éléments presque contradictoires. Le bonheur d'admirer et la révolte. Tiens, voilà encore des bernaches qui passent. Oui. Elles sont peu nombreuses, celles-là, il y en a quatre. Elles vont rejoindre les copines. Et donc, le bonheur d'admirer et puis l'impossibilité de rester indifférent quand on est le témoin d'une agression à l'égard de la biodiversité. Et la LPO, c'est son job, est vraiment l'entonnoir des misères qu'on fait à la nature, et à nous de digérer tout ça et d'essayer d'agir au mieux pour limiter les dégâts.
La mobilisation, évidemment, ça compte aussi. Voilà. Alors, le temps de se déplacer pour aller retrouver Vauban qui nous attend sur l'île de Ré, d'aller retrouver aussi les Bernaches, une réserve naturelle. Je vous laisse en très bonne compagnie.
Dans l'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai bientôt. Quand la lune brûle l'îlot majuscule dont tintinabule les ports, sur les pierres vieilles je nous appareille de phrases vermeilles partant. Nous jetterons l'encre dans le flacon d'encre d'une nuit qu'échancre là-bas le phare sirène du cap des baleines tournant la rengaine d'amour d'au-delà. Dans l'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai demain. Ta main dans la mienne, comme reine, oh comme shine, comme reine ou comme chaîne, je t'aime. Roi mage en cohorte, barbe bleue des portes, l'océan t'apporte la clé du mystère, à toi, ma mystère, que tu sauras taire dans l'île de Ré.
Avec Thierry Dupin et Andréa Le Chêne, on s'est dit que c'était pas du tout du premier degré, c'était simplement du vrai et du pur plaisir que de pouvoir réécouter Claude Nougaro. Donc je vous l'ai dit, qui nous attend? Sébastien Leprêtre, Vauban. Vauban, il est là, celui qui a fait donc le précaré Louis XIV. Eh ben nous y sommes.
Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. Merde à Vauban,
merde à Vauban.
C'est l'œuvre de Vauban ici. C'est pas pour plaire aux détenus qui sont juste derrière nous. Il y a la porte du pénitencier autrefois. À l'époque, on parlait du bagne. Et je trouve ça extrêmement émouvant parce que cette porte s'est ouverte devant nous et sont sortis à la fois des gens comme Dreyfus, comme Papillon et tant d'autres qui ont marché, enchaînés, là, passant devant nous, et sont partis jusqu'au village, à moins d'un kilomètre. Et là, ils ont été embarqués et partaient pour Cayenne, l'île au diable. Bon nombre d'entre eux n'avaient fait que voler du pain. Voilà, comme dirait Victor Hugo. Tout ce site nous parle, et ce qu'il y a d'étonnant, d'abord, c'est la beauté incroyable de ces travaux de Vauban. Ça représente pas loin de 14 kilomètres qui entourent la ville de Saint-Martin. Ces fortifications n'ont pas vraiment servi, mais aujourd'hui, elles me plaisent bien pour une autre raison. Figurez-vous qu'avec la mairie de Saint-Martin et l'administration pénitentiaire, eh bien, on a pu mettre en œuvre dans ces territoires des fortifications, dans les douves, un refuge LPO. C'est-à-dire que, évidemment, les douves ne sont pas fréquentées, sauf un peu par les baudets du Poitou qui pâturent, et c'est une bonne chose, ouais, on est heureux de les savoir là. Mais il y a aussi il y a des chouettes chevêches, il y a des faucons cresserelles, il y a beaucoup d'oiseaux qui vont se préserver des vents à l'intérieur des douves. Et donc, c'est vraiment un très bel endroit pour favoriser l'épanouissement de la biodiversité. Donc, ça va être un site qui va devenir refuge LPO. Et j'en suis très fier.
Ah, autre lieu qui vous tient à cœur sur l'île de Ré, Alain.
Oui. Là, on est à la Maison du Fier. C'est la vitrine de la réserve de l'îlot des Niges. Et là, je vois Julien.
L'îlot des Niges.
Venu.
Bonjour Julien.
Bonjour, bienvenue.
Et là, vous êtes avec ?
Avec mon fils.
Bonjour.
Comment t'appelles-tu ?
Armel Charnigon.
Joli.
On ouvre la porte pour CO2 parce qu'à vrai dire, c'est fermé en ce moment. Mais ça donne...
On est sur un bâtiment qui appartient au Conservatoire du Littoral,
ouais.
Et donc qui depuis 2000 accueille les locaux de la réserve naturelle et puis toute une exposition gérée par la LPO sur la nature, sur l'île de Ré.
C'est un ancien grenier à sel qui a été réhabilité.
Alors en fait ici, Julien, sommes-nous sous le niveau de la mer ?
Donc on est sur un point un peu haut, là où le sel était stocké. Et par contre, tous les marais autour de nous ont été poldérisés, gagnés sur la mer. Et on est à quelques mètres sous le niveau de la mer.
Bon, ce qui veut dire que le milieu est quand même fragile, hein, donc inévitablement.
Oui, et ça pose un énorme problème pour l'avenir. Parce que depuis qu'il y a eu Xintia, il y a une digue qui protège en théorie la réserve, qui a été dépassée par la mer et qui a été même esquintée, et ça fait partie de ce qu'on appelle les digues orphelines, c'est-à-dire que ni le département, ni l'État, ni, voilà, on n'a pas les... Et l'État a décidé qu'on allait laisser faire la nature. D'une certaine manière, c'est la sagesse, mais ça veut dire qu'une partie de la réserve sur laquelle nous nous trouvons va être inondée. Et donc, ça fera beaucoup moins d'espace, de lieux d'accueil pour la biodiversité. Alors, on va peut-être, grâce au Conservatoire du Littoral, récupérer des zones qui permettront de compenser. Regarde le Saint-Esprit, là, juste là. Petit cresserelle qui est là.
Un cresserelle qui fait le Saint-Esprit.
Voilà.
Oh là, ça cause, là, là.
Elles ont un langage multiple, elles sont très grégaires, elles vivent toujours en groupe et elles se parlent sans arrêt, comme si elles avaient peur d'être isolées.
Nos amis les bernaches.
Elles sont en train de prévenir qu'il y a deux cons qui arrivent et qui vont les déranger.
Donc si je veux les interroger sur la Sibérie, c'est elle. Hein.
Alors la toundra, elles aiment, c'est là qu'elles donnent la vie, qu'elles vont nidifier, c'est au nord de la Sibérie. Et l'hiver, évidemment, c'est quand même un peu dur. Alors, elles redescendent chez nous. Elles viennent se protéger. On en voit un peu moins qu'autrefois. Et c'est probablement dû au réchauffement. Parce qu'elles restent davantage dans le golfe du Morbihan, par là.
Alors, une chose extrêmement importante pour comprendre ces paysages, c'est l'eau.
Ben, en fait, pour gérer une réserve naturelle marine comme celle-ci, tout est, le savoir-faire, c'est gérer les niveaux d'eau. C'est-à-dire qu'il faut satisfaire les besoins des espèces. Vous avez beaucoup de limicoles, qui sont des petits échassiers. L'échasse, la bien nommée, elle a des pattes assez hautes. Donc elle aura un niveau d'eau qui lui permettra d'avancer, de trouver sa nourriture, comme la vaucette. Et puis il y a des oiseaux plus petits qui... ont besoin de beaucoup moins d'eau. Je pense au bécasso, par exemple. Et puis, il y a l'esterne. L'esterne, par exemple, elle ne nidifie qu'à partir du moment où elles ont des îlots, où elles se sentent préservées de l'agression des prédateurs. Donc, on crée des petits îlots, et ça marche. Donc, il faut gérer sans arrêt le niveau d'eau pour satisfaire les différentes espèces.
Et c'est pas du tout un mètre près, hein. C'est beaucoup moins. Hein.
Ah oui, ça se joue au centimètre près. Et ça marche, mais on a bien l'expérience maintenant.
Mais quand on regarde donc ces limicoles, effectivement, il y a la grandeur de pattes et puis il y a aussi leur bec qui est spécialisé pour aller chercher la nourriture en fonction d'une certaine profondeur.
Oui, là, on a vraiment l'illustration prodigieuse de l'adaptation de la vie sauvage aux différents milieux. La vossette, par exemple, elle a le bec retourné vers le haut et elle va capturer des micro-organismes. Le courlis, c'est l'inverse. Il a le bec retourné vers le bas. Chacun trouve, en fonction de son alimentation, voilà, le lieu nécessaire et le milieu.
Alain, et le tadorne de Bellon ?
Alors, lui, c'est un oiseau admirable. C'est un canard qui est extrêmement coloré et qui a la singularité d'aller pondre dans les terriers de lapins.
Ah !
Alors, pourquoi ? Probablement parce que, justement, il est tellement coloré qu'à l'intérieur du terrier, il ne se fait pas repérer. Mais il se passe une chose étonnante, c'est que quand il va y avoir la mue après la reproduction, les oiseaux, pendant 3 ou 4 jours, voire davantage, sont incapables de voler parce qu'ils perdent leurs plumes. Alors, ils sont évidemment la proie potentielle des prédateurs. Et pour éviter d'être agressés par les prédateurs, eh bien, ils partent en mer de Vaden, du côté de l'Allemagne. Ils quittent l'île de Ré pour partir là-bas, aller dans les énormes vasières où ils se regroupent et ils peuvent voir arriver les prédateurs. Et une fois que le plumage est reconstitué, ils viennent ici pour récupérer les jeunes. Et il y a quelques adultes qui sont restés pour garder les petits.
Voilà, bah les tadornes, ils sont là. Ils sont en train de manger tranquillement.
Et après, ils ne bougent plus, quoi, une fois qu'ils sont là en hiver.
Oui, tout à fait, ouais. Et les couples sont relativement fidèles entre eux et à leur site de reproduction en plus.
Que désirez-vous, monsieur ?
Des inséparables.
Des inséparables ?
Oui, on m'a dit qu'il en existe différentes variétés. Est-ce exact ?
Oui, c'est exact.
Je voudrais offrir ces oiseaux à ma sœur pour son anniversaire, mademoiselle. Et comme elle va seulement avoir 11 ans, je ne voudrais pas un couple qui soit un peu trop démonstratif.
Je comprends parfaitement.
Toutefois, monsieur, je ne voudrais pas non plus qu'il soit trop indifférent.
Hein ? Non, évidemment.
Auriez-vous par hasard un couple qui ne soit que, disons, très affectueux ?
Oh, je crois que nous en avons.
Je me suis interrogé sur des notions comme l'amour. Certains, par exemple, considèrent qu'on ne peut pas accorder l'amour au monde animal. Il y aurait des phéromones, il y aurait de la physiologie, et il n'y aurait pas d'amour. Je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, on fait une barrière sur le sentiment qui serait le propre de l'homme. J'ai un ami pas loin d'ici, en Vendée, Christian Pacteau, qui fait la reproduction des aigles de Bonelli. Ce sont des oiseaux qui vont vivre en couple toute leur vie. Et il a mis souvent en relation un mâle et une femelle. Et parfois, ça ne marchait pas. Pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, il a séparé les oiseaux. Il les a mis avec d'autres individus. C'était le coup de foudre immédiat. Et le couple s'est formé pour la vie. Alors moi, voilà, c'est juste de l'observation. Je ne suis pas un scientifique, mais pourquoi on interdit la potentialité de l'amour au monde animal ?
Ah. La barge à queue noire, c'est alors, l'espèce d'oiseau pour lequel l'île de Ré a le plus d'importance en termes de conservation, la barge à queue noire.
Eh bien, regardez-les bien, c'est extrêmement émouvant. Voilà des oiseaux qui étaient chassés et qui font partie des 3 espèces qui aujourd'hui bénéficient d'un moratoire. On n'a plus le droit de les tirer parce que ce sont des espèces à l'agonie. Voilà, celle qui est devant nous, la barge noire, on s'est tant battue, jusqu'au Conseil d'État, pour qu'elle puisse s'épanouir, comme vous le voyez ici, sans se prendre un coup de fusil. On n'est pas contre les chasseurs, très honnêtement, retirer la vie pour le plaisir, c'est une question de conscience. Mais taper dans des espèces qui sont à l'agonie, qui sont fragiles, c'est inacceptable. Et quand, par ailleurs, ils prétendent être les premiers gestionnaires de la nature, oui, c'est quand même un peu gonflé.
Ah, mais c'est sûr, faut dire que quelque part, la chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Alors voilà, quand on cite aussi l'ami Victor Hugo, vous vous rappelez quand même qu'il disait dans Les Contemplations « J'aime l'araignée, j'aime l'ortie, parce qu'on les hait ». Et vous, vous avez commencé aussi avec des serpents, parce qu'on les haïssait aussi. Quoi.
Oui, c'était les mal-aimés. Et c'était les serpents et les rapaces. À l'époque, on clouait encore les chouettes sur les portes des granges, et on écrasait du talon les serpents. Et moi, gamin, j'avais 15 ans, naïvement, je pensais que si je réussissais à réhabiliter ces animaux, je sauvais l'ensemble du vivant. Je créais l'arche de la vie. Voilà, en sauvant ceux qu'on détestait, je sauverais par la même occasion tous ceux qu'on était prêts à aimer. Bon, je crois qu'il faudra encore 2 générations avant d'y arriver.
Que peut-on vous souhaiter ?
Oh, que ce que je ressens, ce que je vis, cette passion-là, elle puisse être partagée par le plus grand nombre. Vous savez, Einstein disait « Le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. » Je voudrais que tout le monde regarde et que plus personne ne laisse faire.
Eh bien, grand merci Alain, et puis à très bientôt.
Au revoir Denis.
Ben merci cher Alain Bougrain-Dubourg, et je vous renvoie vraiment à ces deux ouvrages, pour moi ces deux ouvrages de fond, Alain Bougrain-Dubourg, Dictionnaire amoureux des oiseaux et le Dictionnaire amoureux de la vie sauvage aux éditions Plomb. Et puis merci aussi à Julien Gernigon et son fils Armel de la réserve naturelle de l'îlot de Nige, au Conservatoire du Littoral qui fait quand même aussi un sacré boulot, et puis pas d'autres merci à Corentin Rouchy qui a mixé ce reportage, à Camille Blanès et Andréa Le Chêne qui a très bien colorisé cette émission. On se retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky, et puis la semaine prochaine avec qui, Marie-Monique Robin, et là aussi on sera chez elle dans le Poitou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.